Je vous invite à prier pour démarrer. Seigneur, c'est la rentrée, en effet. Nous finissons les mois d'été. Demain, beaucoup vont reprendre le travail, les enfants le chemin de l'école. Quelle que soit la période de l'année, Seigneur, nous avons toujours autant besoin de toi. Que tu nous donnes ta sagesse, ton intelligence, que tu nous donnes de te rechercher, Seigneur. Tu as dit que ceux qui chercheraient trouveront. Alors, Seigneur, fais que nos cœurs te cherchent pour te trouver, Seigneur. Nous voulons chercher et nous recherchons la sagesse et l'intelligence qui viennent de toi. Donne-les-nous en cet instant par ce message, par ta Bible, Seigneur, ta parole, qu'elle nous enseigne encore. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on poursuit bien entendu notre étude dans 1 Corinthiens. La semaine dernière, vous étiez dans le chapitre 17. Andou vous a prêché sur donc, le célibat et le mariage, qui sont tous les deux des dons du Seigneur. Le célibat est un don, le mariage aussi, car il permet au couple justement de ne pas brûler, de désirer les uns pour les autres, mais se garder de la débauche, c'est ce que disait Paul aux Corinthiens. On va terminer le chapitre 7, c'est un passage assez long. On va démarrer à partir du verset 18 jusqu'au verset 40. Le nombre 40, c'est un nombre important dans la Bible. Hein. Israël, 40 jours au désert. Jésus, 40 ans au désert. Jésus, 40 jours au désert. Moïse, qui a vécu 3 fois 40 ans. Le règne de David, 40 ans, selon moi aussi. Voilà. Il y a plein de nombres 40 dans la Bible. C'est aussi un nombre important pour notre frère Andou. Je sais que ça va le gêner, mais c'était son anniversaire. Il est rentré dans le club des cadras, des quadras hier. Il y a une pensée pour lui. Bon anniversaire encore, cher frère. Alors, verset 18. On va le couper en trois, ce passage qui est un petit peu long. On va déjà lire versets 18 à 24. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis ? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis ? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave ? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Alors, Paul répète ici deux fois un conseil. C'est la pensée clé de ce premier bloc, de cette première partie. C'est le dernier verset, qu'il l'avait dit déjà un petit peu plus haut, verset 20. Il redit verset 24. « Que chacun demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il était appelé. » La lettre de Paul, elle est universelle, hein, elle s'adresse à tous. Là, c'était des Grecs, des Juifs, des non-Juifs, elle parle à tout le monde. Et on peut facilement comprendre qu'au début du christianisme, les premiers chrétiens se soient dit « Est-ce qu'il faut qu'on se fasse circoncire ?» Après tout, Dieu avait dit que la marque du peuple de Dieu, c'était dans la chair, par la circoncision. Donc, légitimement, ils pouvaient se dire « Et nous, alors, est-ce qu'il faut qu'on se fasse circoncire ?» Regardez ce que Dieu avait dit, justement, à son peuple, hein, pour dire quelle sera la marque de ceux qui lui appartiennent. On trouve ce passage dans Genèse, chapitre 17, versets 9 à 14. Peut-être que certains se posent la question encore aujourd'hui, est-ce qu'on doit se faire circoncire ? Je crois qu'il y a des endroits du monde, je crois que c'est à Madagascar, c'est quelque chose qui est encore assez fort dans la culture. Hein. Emma, je vois que tu approuves de la tête, hein, c'est un signe de la tête. Même chez les païens, hein, hein, la circoncision se pratique de façon assez large là-bas. Hein. Voilà ce qu'avait dit Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. » C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. vous vous circoncirez. Et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Alors on sait que ça pose un problème aussi à Pierre à un moment, etc. Les juifs, tout ça. Et puis il y avait les juifs qui entraient dans les églises, ou du moins les synagogues où Paul prêchait, etc., pour judaïser les nouveaux convertis. C'était un problème à l'époque. Donc aujourd'hui, je pense que dans notre culture française, on ne se pose plus la question. Par contre, je disais, il y a d'autres pays où ça se pose encore. Effectivement, sous l'ancienne alliance, la marque d'appartenance au peuple de Dieu était dans la chair. Pour appartenir à Dieu, il devait y avoir un signe. Mais Paul dit que sous la nouvelle alliance, ce commandement, pour les chrétiens, c'est caduque. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure, mais il le redit aussi dans Galates 5, versets 2 à 6. Regardez ce que Paul précise un petit peu plus loin. Galates 5, versets 2 à 6. Voici moi, Paul. Je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme, encore une fois, à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Voilà, c'est très clair. Paul dit, si vous vous circoncisez, très bien, faites-le, mais alors vous vous placez sous la loi, il faut faire toute la loi. Et à ce moment-là, Christ, il est mort pour rien. Donc c'est un travers. Christ est mort pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Il ne veut plus que nous soyons sous la loi, il veut qu'on soit sous la grâce. Et à présent, ce qui compte, c'est la foi qui est agissante par l'amour. Voici le message de la croix. Ce que Dieu aime chez un homme ou une femme qui sont en Jésus-Christ, ce n'est pas une marque dans le corps, c'est la circoncision du cœur. C'est ça que le Seigneur recherche. Regardez ce que Paul dit dans Colossiens 2, versets 8 à 11. On avait déjà eu l'occasion un petit peu plus tôt, il y a quelques semaines en arrière, de lire ce passage, on n'avait pas lu les versets qui suivaient. C'est quand on a abordé le thème de la philosophie au tout début de 1 Corinthiens. Paul va dire « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Et voilà le verset suivant. « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » Voilà, si on est à Jésus-Christ, on s'est débarrassé de la personne ancienne. Et même si on était circoncis, la personne ancienne, elle est derrière. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui compte. Théoriquement, quand on est chrétien, on n'est plus esclave du péché. On est libre à présent. On n'est plus sous la loi, on l'avait vu il y a 15 jours. On est sous la grâce, on n'est plus les descendants d'Agar, on est les descendants de... Vous vous rappelez ? Voilà. Donc la circoncision dans la chair, c'est complètement inutile car Dieu regarde le cœur à présent. Il va regarder son peuple dans le cœur et pas dans la chair. Donc Paul fait la première parenthèse sur ce point. Peut-être que la question était posée en disant... Tout ça, si vous avez des tendances judaïsantes, etc., laissez derrière, on n'est plus sous la loi, dorénavant, on agit sous la grâce. Et puis, il va continuer donc à développer les autres questions qui sont posées. Il y a ce thème du mariage et célibat qu'Andou a abordé la semaine dernière, qu'il a beaucoup développé. Mais regardez ce que Paul dit dans les versets d'après. Donc, c'est la deuxième partie du chapitre 7 qu'on va voir ce matin, versets 25 à 34. Donc, Paul fait déjà une première parenthèse sur la circoncision et plutôt l'engagement dans le cœur plutôt que dans la chair. Et puis il revient sur le thème du mariage et du célibat. Mais il a toujours cette pensée clé que chacun restait comme il est au moment de sa conversion. Pour ce qui est des vierges, hommes ou femmes d'ailleurs, hein, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur, miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme ? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme ? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Que désormais, ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Alors ce passage, quand on le lit, pourrait nous surprendre un peu, parce qu'on pourrait se dire, bon tiens, finalement, vaut mieux peut-être pas se marier, finalement. Peut-être que le Seigneur dit, c'est peut-être rester comme ça, c'est peut-être préférable pour les chrétiens de rester célibataire. Mais ici, il y a un point très important. Et c'est pour ça, quand on étudie un texte, rappelez-vous, il faut toujours bien regarder son contexte. C'est très important parce qu'on pourrait sortir un verset de son environnement, en faire une théologie et passer complètement à côté du message. Ici, il y a un point clé. Regardez, c'est verset 26. Il y a deux points, mais celui-ci est très important. Voici ce que j'estime bon, donc il va dire sa pensée. Pourquoi ? Attention, il ouvre une petite accolade et dit « à cause des temps difficiles qui s'approchent ». Paul, quand il écrit, c'est le début de la persécution à Rome des chrétiens sous Néron, et les juifs aussi vont intensifier le combat contre les chrétiens. Donc il y a un temps de persécution. Et Paul dit « attention, voici ce que j'estime bon, warning, à cause des temps difficiles qui s'approchent ». Et il dit également, verset 29, voici ce que je dis, c'est que le temps est court. Donc il dit, attention, il y a une fenêtre de tir, vous êtes convertis maintenant, vous allez pouvoir répandre l'évangile, mais vous allez avoir une fenêtre de tir qui va être assez courte parce qu'il y a les persécutions qui approchent. Donc pour l'instant, restez comme vous êtes, il n'y a pas beaucoup de temps, etc. Si on retire ces deux points-là, on passe complètement à côté du message parce qu'on va en tirer une théologie pour nous aujourd'hui et on serait vraiment dans le faux. Alors, je ne me suis pas penché sur la question, mais je me demande si le clergé catholique ne s'appuie pas un petit peu sur ce type de texte pour le célibat des prêtres. En disant, voyez, la Bible dit, ne vous mariez pas, il préférera pour un homme de rester seul, de s'engager dans le ministère et tout, consacrez-vous à Dieu, vous ne mariez pas. Je me demande s'il n'y a pas une tendance, par l'exemple de Paul, de dire, il faut faire comme ça. Parce que sinon, dans la Bible, on ne voit pas à quel moment c'est précisé. Hein. La Bible dit ici qu'on est dans un contexte de persécution, ce n'est pas une période normale de la vie de l'Église, ce n'est pas la période, par exemple, celle qu'on vit nous, on n'est pas dans un temps de persécution comme ça. Donc, il y a un contexte, il y a des conditions exceptionnelles. Ici, c'est l'exception, ça ne doit pas être la règle. Voilà le contexte, voici ce que dit Paul dans ce cas-là. Sinon, c'est qu'on écarte les versets 26-29, à ce moment-là, on fait une fausse théologie. En plus, ce ne serait pas cohérent, ce célibat, etc., parce que Paul avait dit juste avant, chapitre 7, verset 2, « Toutefois, pour éviter la débauche, et Andou l'a prêché la semaine dernière, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Donc, il y aura une contradiction en disant « Prenez une femme, et puis là, n'en prenez plus. » Et si on regarde le verset 9 aussi, s'il manque de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc, Paul avait bien donné le cadre, c'est de dire, voilà, restez comme vous êtes, le temps est court, prêchez l'évangile, ne vous mariez pas parce que vous n'aurez vraiment pas beaucoup de temps pour, sinon pour servir le Seigneur. En revanche, chers Corinthiens, chers chrétiens, si vous avez des désirs les uns pour les autres, plutôt que vous vous livrer à la débauche et de faire semblant d'évangéliser à côté, mariez-vous, ayez des relations normales, une vie de couple normale, ça c'est la norme, et ceux qui le veulent et qui le peuvent, restez célibataires. Mais sinon, si vous avez des désirs, mariez-vous. Alors donc il y a des dérives et je me demande si certains d'aujourd'hui ne disent pas « prêchons le célibat » parce que c'est ce que la Bible dit. J'ai parlé de l'Église catholique, évidemment c'est l'exemple le plus frappant parce qu'on est encore dans cette culture en France. Regardez ce que disait la Bible, déjà elle avertissait, hein. 1 Timothée chapitre 4, verset 1, jusqu'au verset 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pourquoi faire ? Ben, ils vont s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Des doctrines, hein. C'est pas simplement des pensées, hein. Ça va au-delà. Hein. C'est-à-dire que c'est religieux, là. Il y a des doctrines derrière. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Dieu avait dit, attention, il y a une période où il y aura des doctrines qui vous conduiront à ne pas vous marier. C'était déjà dans la Bible, hein. Dieu prévenait déjà. Hein. Dieu n'a jamais interdit aux hommes et aux femmes de se marier, hein. Cherchez dans la Bible. Hein. Il recommandait à un moment, dans une période exceptionnelle de l'Église, de s'en préserver parce que le temps était très court. C'est peut-être encore valable dans certains pays du monde où il y a de la persécution pour les chrétiens, ou quand il y a un régime autoritaire qui se met en place, je pense à notre sœur Anna de Roumanie, et à un moment le rideau de fer est tombé, le communisme est arrivé, et en Corée du Nord aussi, Corée du Nord, Pyongyang, qu'on appelait la Jérusalem de l'Asie, hein, le communisme est arrivé, c'est fini, hein, rideau sur les églises, donc le temps était très court, certainement qu'on pourrait reprendre ce contexte-là, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Dieu n'a jamais interdit aux hommes et aux femmes de se marier, qu'ils soient prêtres ou nonnes. Dieu ne l'a jamais dit. Et d'ailleurs, la réalité des faits montre que le célibat imposé, ça donne quoi ? Dérive, débauche, atrocité, etc. Je ne cite même pas, parce que vous connaissez les faits divers autant que moi. Voilà pourquoi c'est important de ne pas sortir du contexte quand on étudie un texte. Le mariage est un don, le célibat aussi, mais personne ne doit l'imposer à qui que ce soit. Ça doit rester volontaire. C'est un engagement volontaire. Alors, il n'en reste pas moins que certaines vérités de ce passage restent valables pour nous. Hein. On va relire versets 32 à 34. Toujours dans 1 Corinthiens 7. Hein. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Alors on doit quand même être attentif, parce que le fait d'être marié, on doit se dire, est-ce que ça ne nous éloigne pas de l'engagement qu'on a pris avec le Seigneur ? Je suis marié, est-ce que la majeure partie de mon temps, c'est pour plaire à mon épouse ? Qui pourrait être légitime, mais est-ce que du coup, je délaisse totalement l'engagement que je pourrais donner pour le Seigneur avec mon maître, avec mon temps, etc. Est-ce que je passe plus de temps à chercher à plaire à mon conjoint ou à plaire à Jésus-Christ ? On doit se poser la question. Un couple doit marcher main dans la main afin de servir ensemble. La Bible dit qu'il faut se marier entre chrétiens. L'idéal, c'est un foyer chrétien où l'homme et la femme marchent ensemble, ils servent ensemble le Seigneur. C'est aussi pour ça que Dieu les a unis. Hein. Ça va au-delà de l'aspect sexuel, bien sûr. Il y a vraiment une équipe. Il y a une fusion entre les deux. Avec mon épouse Ruth, on a connu un excellent frère qui était étudiant à l'Institut biblique. C'était vraiment quelqu'un qui était dans la parole de Dieu, quelqu'un qui était vraiment spirituel, quoi. Et il s'était dit, je vais vivre le célibat parce que je pense que pour l'instant, le Seigneur ne m'a pas donné clairement d'autres directions. Donc, je vais m'engager dans le célibat et je me donnerai entièrement au Seigneur. Et je me disais, waouh, quel exemple, mon frère, quand même. Et puis, on a appris 2 ans après qu'il avait rencontré une jeune femme à l'église et qu'il se projetait de se marier. Ils se sont mariés. Et aujourd'hui, ils sont tous les deux dans le ministère à plein temps. Ils servent très bien le Seigneur ensemble, je ne le cite pas. Voilà, mais c'est un très, très bel exemple. Dieu, sans aucun doute, a vu la sincérité de son cœur. Il était prêt à s'engager pour le célibat. Mais il lui a dit, je vais quand même te donner une épouse, ce sera quand même mieux, quoi. Et aujourd'hui, quand je discute avec lui, je vois que son épouse, elle lui rend beaucoup, beaucoup de services et que tout seul, il serait bien chargé, quoi. Mais il a beaucoup de responsabilités dans le ministère aujourd'hui. Ils servent tous les deux le Seigneur et c'est un très, très bel exemple. Tout comme le Seigneur préfère la circoncision volontaire du cœur, eh bien, il préfère un engagement volontaire et sincère devant lui. Même dans le célibat, il faut que ce soit volontaire et pas contraint. La dernière partie qu'on va voir, c'est les versets 35 à 40. Là, Paul va conclure en abordant différents points. Mariage, célibat, divorce, veuvage, remariage. Il y a beaucoup de cas, vous le savez, à Corinthe, il y a beaucoup de questions qui lui étaient posées. Donc, il va englober un petit peu tout ça. Il va terminer le chapitre 7 pour faire une sorte un petit peu de synthèse. On va lire 35 à 40. Paul dit, il vient de dire plein de choses, hein, parfois un peu dur. Hein. Il dit, je dis cela dans votre intérêt, hein, c'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Encore une fois, je suis pas en train de vous gronder, là, je suis pas en train de vous faire la morale, ça c'est ce qui est bon pour vous. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point, qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui est décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Alors, j'ai une traduction un petit peu différente. On est dans la 79, on va lire dans la 21, si tu veux bien, Nathan. On va lire les deux premiers versets, parce que du coup, la pensée reste la même sur le fond, mais ça va vous parler peut-être plus directement si on lit dans 21. Je dis cela dans votre intérêt, etc. Donc, vas-y, 36. Si quelqu'un estime agir de façon inconvenante envers sa fiancée en la laissant dépasser la fleur de l'âge, et si tel doit être le cas, qu'il fasse comme il le veut, il ne pêche pas qu'il se marie. Verset suivant. Quant à celui qui tient ferme dans son cœur, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui est décidé en lui-même de garder le célibat, il fait bien. Parce que tout à l'heure, c'était avec la fille, donc voilà. Là, c'est lui-même qui décide de garder le célibat. Vous voulez être célibataire volontairement, vous faites bien. Alors j'aimerais revenir sur un point qui pourrait paraître secondaire mais qui est important. J'ai tout à l'heure évoqué le célibat des prêtres. Très bien. Effectivement, on imagine difficilement comment un prêtre va donner des conseils à un couple sur la vie dans le foyer, sur la sexualité, si lui-même n'est pas marié. On resterait dans la théorie, mais il n'y aurait pas du tout la pratique. On sait bien qu'il y a des écarts entre les deux. Alors dans ce cadre, on pourrait dire, mais Paul il est célibataire. Quelle légitimité il a pour nous enseigner là. Bon, déjà, il finit en disant « Je crois avoir l'Esprit de Dieu, moi aussi. » Donc, il a le Saint-Esprit, bien sûr. Effectivement, Paul était célibataire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait jamais été marié. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait jamais été seul. Il y a plusieurs pensées. Certains pensent qu'il était divorcé parce que sa femme l'aurait quitté suite à sa conversion. Argument, mais aucune trace dans la Bible qui pourrait justifier ça, donc on écarte. D'autres pensent qu'il était célibataire par choix de se consacrer au ministère. Beaucoup le pensent, effectivement. Un peu comme les prêtres catholiques, justement, et peut-être qu'ils tirent leur théologie et leur doctrine de ça. Pourquoi pas, mais si on regarde bien le judaïsme, c'est pas du tout la conception du service de Dieu. Les juifs qui étaient religieux, mais qui étaient engagés, les sacrificateurs, le Sanhédrin, etc., ils étaient mariés, et dans le judaïsme, c'est important d'être marié et d'avoir des enfants. Ça ne collerait pas avec les responsabilités de Paul. Pourquoi ? Parce que Paul, il y a un détail dans Actes 26, 10. Regardez avec moi. Actes 26, 10. Paul dit, c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens, car j'en avais reçu le pouvoir des chefs des prêtres Et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. S'ils votaient contre eux, c'est-à-dire qu'ils faisaient partie du Sanhédrin, du conseil. Et pour faire partie du conseil, il fallait être marié. Donc Paul, à un moment de sa vie, certainement a été marié. Probablement que célibat volontaire, a priori, non. Divorce de sa femme, on ne sait pas. Ce qui est fortement plus probable, c'est qu'il ait été veuf, peut-être, effectivement. Parce que pour être responsable et dans le Sanhédrin et pouvoir voter, il fallait être marié, a priori. Donc Paul avait une expérience de la vie de couple. Donc il est légitime pour répondre à ces questions difficiles. Donc, pourquoi ? Parce qu'il avait visiblement été marié, même si on ne peut pas le prouver, mais il semblerait que si on regarde le contexte juif, oui, il a été marié à un moment. Et puis deuxièmement, il dit à la fin du verset 40, « Je pense moi aussi avoir l'Esprit de Dieu ». Donc il a le Saint-Esprit pour enseigner. Donc on peut écouter bien entendu l'enseignement de Paul. Fin de la petite parenthèse sur Paul. Alors, notre frère l'apôtre, il va terminer ici avec deux pensées qui unissent l'ensemble du chapitre 7. Que chacun reste dans la position qui était la sienne, voilà comment il conclut. Ou bien, mariez-vous pour éviter de vous livrer à la débauche. Et là, il boucle la boucle avec le début, les questions qui étaient posées sur la débauche. Il y a de la débauche, mariez-vous, vous éviterez ça. Et surtout, comme le temps est court, restez dans la condition qui était la vôtre. Et il conclut, termine en répondant à quatre questions qui pourraient être des questions légitimes pour nous. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit se marier ? Nous on dit oui spontanément, mais c'est ce qu'il dit au verset 36, 1 Corinthiens 7:36. Il conclut comme ça en disant « Si quelqu'un estime agir, blablabla, il ne pêche pas qu'il se marie. » Donc, mariez-vous, pas de contrainte sur le mariage, personne n'imposera le célibat. Même si vous voulez vous engager pour le Seigneur, vous voulez devenir pasteur à plein temps, etc., la Bible ne dit pas les pasteurs, vous êtes célibataires, comme Paul, etc. Ça, c'est des doctrines qui sont des dérives complètes. Si vous brûlez pour la chair ou si vous préférez travailler en équipe, le mariage, bien entendu, est préférable. Est-ce que je peux faire le choix de rester célibataire ? Oui, verset 37, Paul continue en disant « S'il a gardé en lui-même et sans contrainte, celui qui tient ferme dans son cœur, donc qui ne brûle pas pour le désir, il le fait sans contrainte, c'est volontaire, et avec l'exercice de sa propre volonté, s'il a décidé en lui-même de garder le célibat, il fait bien, il peut le faire, pas de contrainte là-dessus. » Est-ce qu'on doit divorcer ? Ah, divorce est facile aujourd'hui. Même légalement, ils ont fait des procédures simplifiées de divorce. On arrive devant le juge, salut, c'est qui ? C'est toi, c'est elle qui pose problème ? Ouais, c'est moi aussi, tout ça. Divorcer tous les deux ? Ouais, c'est bon, allez, vous signez là. Terminé, voilà, on met fin au mariage. C'est à peu près comme ça, je caricature, mais c'est aussi grossier que ça. Verset 39. Une femme est liée à la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Si le mari meurt, elle est libre de se remarier, à condition que ce soit dans le Seigneur. Donc il y a un engagement quand même. Vous ne pouvez pas se séparer à la légère. Là, il faut quand même qu'il soit mort. Là. Mais si elle veut se remarier après, elle peut. Mais que ce soit dans le Seigneur. Donc, est-ce qu'on peut se marier ? Oui. Est-ce qu'on peut faire le choix du célibat ? Oui. Le divorce ? Et en cas de décès du conjoint, je suis veuf, qu'est-ce que je dois faire ? Ou je suis veuf. Si le mari meurt, si la femme meurt, voilà, on peut. C'est dans les deux cas, certainement. Logiquement, elle peut se remarier, mais dans le Seigneur. Elle ne se remarie pas avec, etc., avec quelqu'un du monde. Alors, le Seigneur m'a accordé la grâce d'être marié avec une épouse que j'aime et qui est chrétienne. C'est une grâce de Dieu. Je sais que, et on l'a dit, que le célibat est une grâce de Dieu, c'est un don aussi, mais que ça peut être difficile à vivre. Je suis conscient que être célibataire, il y a beaucoup de chrétiens et de chrétiennes qui souffrent de la solitude et c'est pas facile. Alors, Jésus en parle. Dans Matthieu 19, il donne trois types de célibat. Regardez, Matthieu 19, versets 3 à 12. Voici ce que le Seigneur nous dit. Il nous montre trois types différents de célibat. Les pharisiens l'abordèrent et pour lui tendre un piège, ils lui dirent « Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif ?» Alors, ils avaient la même façon de faire que les Corinthiens, et c'est ce que disait Andou la semaine dernière. Ils arrivent avec Paul avec une question piège en disant « Voilà, si Paul dit ça, ceux qui sont de Paul vont dire « Ah, vous avez vu, on est de Paul, il a raison. » Et puis s'il dit l'inverse des autres, ils se diront « Nous, on est pour Apollos parce que Paul, il dit ça, ton Paul, j'en veux pas. » Et là, c'est Christ, c'est la peau de banane pour qu'il glisse dessus. Alors, bien sûr, le Seigneur, il a toujours, avec sa sagesse infinie et divine, il a toujours la façon de répondre qui va toujours contredire ses interlocuteurs. Le Seigneur répond « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme ?» Et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, deuxième piège, Moïse a-t-il prescrit de donner la lettre de divorce à la femme lorsqu'il la renvoie ? Ah, on va bien te coincer là, tu verras ce que tu vas répondre. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné de divorcer de votre femme, de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Moi, je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, « Seigneur, tu as répondu à toutes nos questions. Qu'est-ce que tu es sage? On va faire tout comme tu as dit. » Pas du tout. Ils disent, « Oh, si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, alors là, les gars, vaut mieux pas se marier. Hein. On peut pas divorcer comme on veut. Wow. » Le Seigneur leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. En effet, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. D'autres le sont devenus par les hommes. » Et il y en a qui se sont fait eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc le Seigneur, là, il dit, voilà, il y a trois types de célibat. Le terme qu'il emploie ici, eunuchos, vous avez compris ce que ça voulait dire, on a traduit par eunuque. Eh bien, eunuque, ça veut dire trois positions, on va dire. Tout d'abord, ça peut être l'intendant d'un harem. Vous savez, les monarques en Orient avaient des harems avec de nombreuses femmes. L'intendant, le directeur du harem, il était castré, évidemment, vous comprenez très bien pourquoi. Donc voilà, ça c'était la position des eunuques. C'est aussi celui qui a une incapacité naturelle au mariage ou avoir des enfants. Un eunuque, c'est aussi quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfants. Ou c'est celui donc qui s'abstient volontairement du mariage. Et en utilisant ce terme, Jésus montre qu'il y a trois types de célibat. Il y a le célibat naturel, qui est dû à une malformation génitale. Il le dit qu'ils sont dès le ventre de leur mère, ils sont eunuques, ils ne peuvent pas. Il y a le célibat subi ou contraint, les hommes qui ont fait quelque chose. Ou il y a le célibat volontaire. Dérive de doctrine, Origène, l'un des premiers pères de l'Église, il avait tellement mal interprété ce texte-là qu'il s'est dit « Moi, je veux me faire eunuque pour le royaume de Dieu, pour servir le Seigneur. » Et il s'est vraiment fait eunuque lui-même, si vous voyez ce que je veux dire. Il s'est castré lui-même. Voilà. Il n'avait pas compris. Voilà. Il y a trois types de célibat. Le volontaire, le subi ou le naturel aussi, qui est un peu moins courant. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous vivez ce matin. Si vous êtes seul, en tout cas, sachez que le célibat est un don. On le répète, hein, on va le marteler ici, hein, parce que c'est difficile parfois à vivre. Mais c'est une grâce de Dieu. Il faut considérer que c'est une opportunité pour mieux servir le Seigneur. Tant que vous êtes seul, du moins, vous pouvez plus vous consacrer à Dieu. Et peut-être qu'un jour, le Seigneur mettra fin à votre célibat, peut-être que vous allez rencontrer votre conjoint ou votre conjointe, mais tant que vous êtes seul, vous pouvez vous consacrer encore un peu plus au Seigneur. C'était le cas de notre ami que j'ai cité tout à l'heure. Il a eu sa période de solitude, qu'il vivait très bien parce qu'il avait la sagesse pour le faire. Il s'est consacré entièrement à ses études et puis après il s'est marié, il est rentré dans le ministère avec l'épouse que Dieu lui avait donnée. Alors j'aimerais conclure ce matin avec voilà, quelques versets. Si vous êtes célibataire, si vous n'avez pas d'enfant, si vous vous sentez seul, etc., on va regarder quelques versets dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 14. 1 Corinthiens 4, verset 14. Paul disait aux Corinthiens un petit peu plus haut, « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela. » Encore une fois, il dit, « Ce n'est pas pour vous faire la morale, vous gronder, etc. Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. » En effet, même si vous aviez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez pas cependant plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'Évangile. Si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir beaucoup d'enfants spirituels. Hein. Rien ne vous empêche d'avoir des enfants dans le Seigneur. C'est encore plus beau. Hein. C'est ce que Paul dira aussi à Timothée, 1 Timothée, chapitre 1, verset 2. À Timothée, mon enfant véritable dans la foi. À Timothée, c'était l'enfant véritable de Paul dans la foi. Hein. C'était son papa, Paul. Hein. Il avait beaucoup d'enfants spirituels, dont Timothée, voilà, qui revient souvent dans le Nouveau Testament. Timothée, mon enfant véritable dans la foi. Ceux qui sont célibataires, ne soyez pas attristés si vous n'avez pas d'enfant, hein, ou pas encore. Le Seigneur, si vous faites son œuvre, peut vous donner d'être mère ou père de nombreux enfants dans la foi. Regardez Isaïe 54, chapitre 1. Ésaïe 54, verset 1. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. Éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement, de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit l'Éternel. Voilà, vous pouvez avoir une femme ici, elle va avoir 2, 3 enfants, peut-être 4 si c'est une famille déjà nombreuse. Mais dans le Seigneur, on peut avoir beaucoup d'enfants, et c'était le cas de Paul. Et je termine avec Ésaïe 56, versets 4 et 5. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Si des eunuques respectent mes sabbats, choisissent de faire ce qui me plaît et restent attachés à mon alliance, on peut considérer que ce sont des célibataires ici, ou des personnes qui n'ont pas d'enfants, je leur donnerai dans mon temple et à l'intérieur de mes murailles une place et un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles. En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. Magnifique. Soyez pas tristes. Voilà, c'était des versets pour... J'espère que ces versets vous font du bien. Si vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes seul, voilà, le Seigneur aussi dans sa parole a des versets d'encouragement pour dire « Je sais ce que je fais ». Ne croyez pas que le Seigneur vous a abandonné, vous a oublié ou ait un plan qui est trop dur pour vous. Le Seigneur sait très bien ce qu'il fait. Et ce que Paul dit, c'est que vous êtes dans cette situation-là, eh bien, restez tel que vous êtes pour l'instant. Si ce n'est pas le plan de Dieu, en tout cas, vous aurez beaucoup plus de temps pour servir le Seigneur et peut-être pour avoir des enfants spirituels. Donc, profitez-en, j'ai envie de vous dire. Et pour ceux qui sont mariés, ben, il faut qu'on médite aussi sur ce qu'on a lu un petit peu plus haut et ce qu'on a partagé ensemble. C'est également un don de Dieu, le mariage. Hein. Qui pense que le mariage n'est pas un don de Dieu ? C'est un don de Dieu, bien sûr. Mais on ne doit pas faire en sorte qu'il ralentisse notre engagement dans l'Église. Parfois, on peut avoir des problèmes de couple. C'est pour ça que je dis qui pense que le mariage est une malédiction. Quelqu'un a dit, c'est atroce, je vous le dis juste, le mariage est une institution qui permet de régler à deux des problèmes qu'on n'aurait pas eu si on était resté seul. C'est drôle, on s'amuse, etc. Mais bien entendu, c'est pas du tout ça. Le mariage, c'est une grâce de Dieu qui fait que un homme, une femme, main dans la main, vont pouvoir mieux servir le Seigneur ensemble parce que la corde à trois fils, elle a du mal à rompre. Voilà. Mais il ne faut pas que le mariage pour nous, ce soit juste passer son temps à soigner sa personne, plaire à son conjoint, etc. Sinon, on rate la mission qui est de servir le Seigneur ensemble. Donc, les couples ici, méditons bien aussi ce que disait Paul ce matin, ne transformons pas une bénédiction de Dieu en malédiction, quelque part. Alors, pour conclure, quelle est la meilleure place ? Marié, célibataire ? Eh bien, un pasteur à cette question, il a répondu, la meilleure condition de vie pour tout homme, c'est celle qui va le préserver au mieux son âme, qui va le garder des soucis et des pièges de ce monde. Si c'est le célibat, amen. Si c'est le mariage, amen. Mais dans tous les cas, on doit rester dans la condition qui est la nôtre, vivre la condition qui est la nôtre avec joie. Si le Seigneur nous donne un conjoint, amen. S'il ne nous en donne pas, amen aussi. Le but, c'est toujours de le servir, quoi qu'il en soit. Et j'aimerais conclure avec un dernier verset dans Colossiens 3, verset 17. Voici ce que nous demande le Seigneur, en toutes circonstances, si nous sommes chrétiens. Colossiens chapitre 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, que vous soyez marié, célibataire, avec ou sans enfant, veuf, etc. C'est pas dans le verset, mais c'est pareil. Quoi que vous fassiez, quelle que soit votre situation, quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Amen. Amen. Je vais prier pour conclure. Seigneur, en effet, chacun vit des situations différentes, Seigneur. Il y a les couples qui sont mariés. C'est une grâce, Seigneur, tu leur évites aussi la débauche. Et puis il y a ceux qui sont célibataires. Notre Seigneur a dit qu'il y avait trois types de célibat, le célibat naturel, le célibat contraint, le célibat volontaire. Seigneur, tu connais les cœurs et les vies de chacun. Et Seigneur, nous voulons nous rappeler que les deux situations sont des grâces, Seigneur. Comme nous sommes mariés, nous pouvons te servir ensemble. Et si nous sommes seuls, nous pouvons peut-être mieux te servir, Seigneur, avec plus de temps, moins d'attrait pour les choses de ce monde, chercher à plaire à l'autre, etc. Seigneur, c'est une grâce aussi. Quelle que soit notre situation, Seigneur, merci pour celle-ci. Donne-nous de la vivre entièrement et surtout, Seigneur, de rester à ton service. Donne-nous, Seigneur, de nous placer au pied de la croix pour nous engager pour toi. C'est la rentrée, Seigneur. Les vacances sont terminées. C'est la reprise du travail, des études. C'est aussi la reprise des activités dans l'Église. Et je vais te prier pour que chaque chrétien ici puisse réfléchir à son engagement avec toi. Qu'est-ce que je fais pour toi, Seigneur? Comment est-ce que je parle de toi? Est-ce que je témoigne de toi? Seigneur, nous avons lu que nous devons tout faire pour toi, par ton nom. Et je te demande, Seigneur, de toucher le cœur de chacun pour que chacun fasse son auto-analyse, de faire son bilan avec toi, Seigneur, pour se dire quel sera mon engagement cette année pour toi, Seigneur. Aide-nous à faire cela en conscience. Et quelle que soit notre position, mariée, célibataire, je t'en prie dans le nom de Christ. Amen. Amen.